Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Donc dans Lectures en liberté, nous poursuivons les extraits de ce roman bien connu de Jacques Kerouac, Sur la route. Un gars de l'Ouest, de la race solaire, tel était Dean. Ma tante avait beau me mettre en garde contre les histoires que j'aurais avec lui, j'allais entendre l'appel d'une vie neuve, voir un horizon neuf, me fier à tout ça en pleine jeunesse. Et si je devais avoir quelques ennuis, si même Dean devait ne plus vouloir de moi pour copain et me laisser tomber, comme il le ferait plus tard, crevant de faim sur un trottoir ou sur un lit d'hôpital, qu'est-ce que cela pouvait me foutre? J'étais un jeune écrivain et je me sentais des ailes. Quelque part, sur le chemin, je savais qu'il y aurait des filles, des visions, tout quoi. Quelque part, sur le chemin, on me tendrait la perle rare. Au mois de juillet 1947, ayant économisé quelques $50 sur ma pension d'ancien combattant, j'étais prêt à partir pour la côte ouest. Un ami, Rémi Boncoeur, m'avait écrit de San Francisco pour me demander de m'embarquer avec lui sur un paquebot qui faisait le tour du monde. Il jurait qu'il pourrait me caser à la salle des machines. Dans ma réponse, je lui dis que je me contenterais d'un vieux cargo, si je pouvais y faire quelques petites virées dans le Pacifique et rentrer ensuite avec assez d'argent pour subvenir à mes frais chez ma tante jusqu'à ce que j'aie fini mon livre. Il dit qu'il avait une bicoque à Mill City et que j'aurais tout le temps du monde pour travailler pendant les pourparlers qu'il nous faudrait mener pour dégoter un bateau. Il habitait avec une dénommée Lee Anne. Il dit que c'était une cuisinière épatante et que ça allait sauter. Rémi était un vieux copain de lycée, un Français élevé à Paris et un vrai fou. J'ignorais alors à quel point. Bref, il comptait me voir arriver avant une dizaine de jours. Ma tante approuvait tout à fait mon voyage dans l'Ouest. Elle dit que cela me ferait du bien, que j'avais trop travaillé pendant tout l'hiver et trop vécu entre quatre murs. Elle ne trouva même pas à redire lorsque je lui avouai que je partais plutôt à la cloche. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était que je ne revienne pas en morceaux. Bref, abandonnant mon gros manuscrit inachevé qui trônait sur mon bureau, refermant un matin pour la dernière fois mon lit douillet, je pris le large, avec le sac de toile où j'avais serré quelques objets indispensables, et je mis le cap sur l'océan Pacifique avec mes $50 en poche. À Patterson, j'avais potassé pendant des mois les cartes des États-Unis, j'avais même lu des livres sur les pionniers et savouré des noms de lieux comme Platte et Cimarron et d'autres. Et sur la carte routière, souvent regardé une longue ligne rouge appelée la route numéro 6. Qui, depuis le sommet de Cape Cod, menait droit sur Haley, dans le Nevada, et plongeait de là sur Los Angeles. Je pris la décision de ne pas quitter la numéro 6 jusqu'à Haley, et plein de confiance, je me mis en route. Pour rejoindre la numéro 6, il me fallait grimper à Bear Mountain. Enivré par les hauts faits que j'allais accomplir à Chicago, à Denver et en fin de compte à Frisco, je pris le métro de la 7e avenue jusqu'au terminus de la 242e rue. Et là, je pris un trolley pour Yonkers. Je changeai dans le centre de Yonkers et par un trolley de banlieue, je gagnai les faubourgs de la ville sur la rive est de l'Hudson. Supposez qu'on lâche une rose dans l'Hudson, à sa source mystérieuse des Adirondacks. Et imaginez tous les pays qu'elle traverse avant de se perdre dans la mer à tout jamais. Imaginez cette admirable vallée de l'Hudson. Je me lançais en autostop à l'escalade de l'objectif. 5 automobilistes se relayèrent pour me conduire par une route en zigzag jusqu'au point désiré, le pont de Bear Mountain, que franchit la route numéro 6 venant de la Nouvelle-Angleterre. Il commença de pleuvoir à torrents quand je débarquai là. Un vrai paysage de montagne. La route numéro 6 surplombait le fleuve, contournait un carrefour et disparaissait dans une région sauvage. Non seulement il n'y avait pas de circulation, mais la pluie tombait à seaux. Et je ne pouvais m'abriter nulle part. Je courus me mettre sous une pinède. Cela ne changea rien, je me mis à rugir et à jurer et à me taper sur le crâne en me traitant de parfait abruti. J'étais à 40 000 au nord de New York. Tout le long du chemin, ce qui m'avait tourmenté, c'était que le grand jour, le jour de la belle, je l'avais uniquement consacré à faire route vers le nord et non vers l'ouest, si passionnément désiré. Maintenant, j'étais cloué sur mon perchoir septentrional. Je courus pendant un quart de mile jusqu'à un poste à essence abandonné, d'un style coquettement britannique, et me plantai sous les chéneaux dégoulinants. Là-haut, au-dessus de ma tête, Bear Mountain, imposante et hirsute, me bombardait de coups de tonnerre qui me remplissaient d'une terreur sacrée. Tout ce que je pouvais apercevoir, c'était des arbres brumeux, des solitudes lugubres qui montaient jusqu'au ciel. Bon Dieu, qu'est-ce que je peux bien foutre sur ces hauteurs ? Fulminai-je, sanglotant du désir d'être à Chicago. En ce moment même, ils sont tous en train de prendre du bon temps, oui, ils prennent du bon temps, et je ne suis pas là. À quand donc serai-je là-bas ? Et d'autres discours du même genre. En fin de compte, une auto s'arrêta devant le poste sans essence. L'homme et les deux femmes qui étaient dedans voulaient examiner une carte. J'allai droit à eux et leur fis des gestes sous la pluie. Ils se consultèrent. J'avais l'air d'un dingue, bien sûr, avec mes cheveux ruisselants, mes souliers détrempés. Mes souliers, parfait abruti que j'étais, étaient des mocassins mexicains, des espèces de passoires en fibrane, tout à fait déplacées sous la pluie de la noire Amérique, sur l'âpre route noire. À Newburgh, la pluie avait cessé. Je descendis jusqu'au fleuve. Il me fallut rentrer à New York en car, car une escouade d'instituteurs qui venaient de passer un week-end en montagne, jacasserie et blablabla, et moi furieux pour ce temps et cet argent gaspillé, et me disant que je voulais partir pour l'ouest et que j'avais passé ici toute la journée et une partie de la nuit à monter et à descendre, du nord au sud comme un machin qui n'arrive pas à démarrer. Et je fis le serment d'être le lendemain à Chicago. Montant pour plus de sûreté dans un car pour Chicago, dépensant le plus clair de mon argent, mais je m'en foutais pas mal, puisque le lendemain, j'allais être à Chicago. Ce fut une randonnée ordinaire, en autocar. Gosse pleurnicheur, soleil chaud, paysans qui, en Pennsylvanie, montent à une ville et descendent à la suivante. Jusqu'au moment où nous avons atteint la plaine de l'Ohio. Et nous sommes mis vraiment à rouler vers Ashtabula, puis de nuit à travers l'Indiana. J'arrivai à Chi assez tôt dans la matinée, pris une chambre et me mis au lit avec juste quelques dollars en poche. Je m'attaquai à Chicago après une bonne journée de sommeil. Vent soufflant du lac Michigan, bebop aux loupes, longue marche du côté de South Astled, et de North Clark. Longue promenade après minuit dans la jungle des bas quartiers, où me suivit une bagnole de flics en maraude qui me trouvèrent l'air louche. À cette époque, en 1947, le bebop déferlait comme un vent de folie sur toute l'Amérique. Aux loupes, les gars se donnaient du mal, mais d'un air languissant parce que le bop en était d'une certaine façon à cette période intermédiaire entre le style Charlie Parker et celui de Miles Davis. Et pendant que j'étais assis à écouter ce chant de la nuit que le bop est devenu pour nous tous, je pensais à tous mes amis qui, d'un bout à l'autre du pays, étaient tous vraiment dans la même immense arrière-cour, aussi délirant et frénétique. Puis, pour la première fois de ma vie, l'après-midi suivante, j'entrais dans l'ouest.
La route m'appelle et m'attire, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Ce soir, ici, j'ai trouvé un lit, demain, je coucherai dehors. Beaucoup de routes ramènent vers vous, et ma route m'entraîne toujours. Et j'ajoute des lieux et des lieux aux lieux qui me séparent de vous. Bien sûr, j'ai souvent faim et froid, j'ai envie de m'arrêter parfois, mais ma route m'entraîne toujours. Désir de concrétiser un symbole, de posséder l'unique beauté que l'on nomme liberté. Que m'importe droits et doctrines, ma seule loi c'est la fatigue. Que m'importe le temps qui passe, mon seul guide est le hasard. Quelquefois une longue halte pour m'y connaître une compagne, mais le vent qui crie et qui passe, passe, m'invite à prendre le départ. Oh, bien sûr, j'ai souvent faim et froid, j'ai envie de m'arrêter parfois, mais ma route m'entraîne toujours. Désir de concrétiser un symbole, de posséder l'unique beauté que l'on nomme liberté. Bien sûr, j'ai souvent faim et froid, j'ai envie de m'arrêter parfois, mais ma route m'entraîne toujours. Désir de concrétiser un symbole, de posséder l'unique beauté que l'on nomme liberté. J'ai envie de m'arrêter parfois, mais ma route m'entraîne toujours. Désir de concrétiser un symbole, de posséder l'unique beauté que l'on nomme liberté.
Michel Coringe, La Route. Et donc après cette pause musicale, nous reprenons la lecture des extraits du roman de Jacques Kerouac, Sur la route.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Je montais d'abord sur un camion de dynamite avec un drapeau rouge et roulais environ 30 000 dans l'immensité verdoyante de l'Illinois, le chauffeur me montrant l'endroit où la route numéro 6 sur laquelle nous étions croise la route 66. Avant que toutes deux ne s'enfoncent dans l'ouest à d'incroyables distances. Vers 3 heures de l'après-midi, après m'être tapé une tarte aux pommes et une glace dans un stand au bord de la route, je vis une femme s'arrêter pour moi au volant d'un petit coupé sport. J'eus un coup au cœur en courant derrière la voiture. Mais c'était une femme entre deux âges, qui, pour tout dire, avait des fils de mon âge et cherchait quelqu'un pour la relayer au volant jusqu'en Iowa. J'étais tout désigné pour cette fonction, l'Iowa. Ce n'était pas loin de Denver, et une fois à Denver, je pourrais souffler. Elle conduisit d'abord quelques heures, insista à un moment pour visiter je ne sais où une vieille église, comme si nous faisions du tourisme. Puis je m'installai au volant et bien que je ne conduise pas très bien, je m'appuyai d'une traite le reste de l'Illinois jusqu'à Davenport, en Iowa, via Rock Island. Et là, pour la première fois de ma vie, je vis mon Mississippi. Mon Mississippi adoré, comme tari sous la brume estivale, ses eaux basses entre les berges élevées qui exhalent l'odeur crue du corps même de l'Amérique. Et c'est parce qu'il le baigne de tout son long. Rock Island et ses voies de chemin de fer, ses bicoques, son petit quartier commerçant. Et passer le pont Davenport, ville du même genre, toute parfumée par une odeur de sciure sous le chaud soleil du Middle West. C'est là que la dame devait bifurquer vers chez elle, dans l'Iowa. Je la quittai. Le soleil descendait. Je marchais, lesté de quelques demi bien frais, vers les faubourgs. Cela faisait un bout de chemin. Au volant, tous les hommes rentraient du travail, coiffés de casquettes de la compagnie des chemins de fer, de casquettes de baseball, de toute espèce de coiffure, comme ceux qui rentrent du travail dans n'importe quelle ville, n'importe où. L'un d'entre eux me mena en haut de la colline et me laissa à un carrefour désert à l'orée de la prairie. C'était un bel endroit. Il ne roulait par là que des voitures de fermiers qui me lançaient des regards soupçonneux, passant dans un cliquetis de ferraille. Les vaches rentraient chez elles. Pas un camion. De voitures qui filaient, il n'y en avait guère. Un gosse, dans une tire déglinguée, passa la cravate au vent. Le soleil avait maintenant atteint l'horizon. Je me tenais debout dans le soir empourpré. J'étais inquiet. Il n'y avait pas même de lumière aux alentours d'Iowa. Dans une minute, personne ne pourrait plus m'apercevoir. Par chance, un type qui rentrait à Davenport me ramena en ville. C'était revenir exactement à mon point de départ. J'allais m'asseoir à la gare d'autocar pour méditer sur ma situation. Je mangeai encore une tarte aux pommes et une glace, pratiquement la seule nourriture que je pris durant toute la traversée du pays. Je savais que c'était fortifiant et c'était délicieux. Je me décidai à tenter ma chance. Je pris un autocar dans le centre de Davenport, après avoir passé une demi-heure à lorgner une serveuse au buffet de la gare et gagnai la sortie de la ville, mais cette fois du côté des postes à essence. Il y avait par là de gros camions qui grondaient, mugissaient. Au bout de 2 minutes, l'un d'entre eux serra les freins pour me cueillir. Je lui courus après, l'âme au 7e ciel. Et quel chauffeur ! Un grand, gros, terrible chauffeur de camion avec des yeux saillants et une voix rauque et râpeuse qui ne faisait que tonner et rouspéter à tout propos. Il mit son engin en marche sans guère m'accorder d'attention. Comme ça, je pouvais délasser un peu mon âme épuisée car c'est un des maux les plus redoutables de l'autostop que de devoir converser avec des gens innombrables. Leur faire sentir qu'ils ne se sont pas trompés en vous cueillant, quasiment même les amuser. Toute chose qui demande un grand effort, quand vous vous tapez un voyage sans jamais descendre à l'hôtel. Le type se contentait de gueuler dans le grondement du moteur et tout ce que j'avais à faire c'était de gueuler de mon côté, puis nous nous reposions. Il poussait sa machine droit sur Iowa City et gueulait à mon intention les histoires les plus drôles sur la façon dont il tournait la loi dans toutes les villes où la limitation de vitesse est inacceptable. Proclamant et répétant « Ces salauds flics n'arrivent pas à me coller un motif au cul !» Juste au moment où nous entrions dans Iowa City, il aperçut un autre camion qui venait derrière nous. Et comme il devait bifurquer à Iowa, il fit papilloter ses feux arrière à l'intention de l'autre gars et ralentit pour me laisser sauter, ce que je fis sans oublier mon sac, tandis que l'autre camion, acceptant cet échange, s'arrêtait pour me prendre. Et une fois de plus, en moins de rien, je me trouvais dans une cabine large et haute, parée pour faire des centaines de milles à travers la nuit, et comme j'étais heureux. Le nouveau chauffeur était aussi fou que le précédent et poussait des rugissements comparables. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de me caler les reins et de laisser rouler. Maintenant, je voyais Denver surgir dans le lointain comme la terre promise, tout là-bas, sous les étoiles, au-delà de la prairie du Iowa et des plaines du Nebraska. Et plus loin encore, le spectacle plus majestueux de San Francisco, pareil à des joyaux dans la nuit. Tout en conduisant, il me raconta des histoires pendant une paire d'heures, puis, dans une ville du Iowa où des années plus tard, Dean et moi furent arrêtés comme suspects dans une Cadillac qui avait tout l'air d'être volée, il dormit sur la banquette. Je dormis aussi. Puis je fis une petite promenade le long des murs de briques déserts à la lueur d'un lampadaire avec la prairie tapie au bout de chaque petite rue et l'odeur du maïs comme une rosée nocturne. Il s'éveilla en sursaut au lever du soleil et nous décampâmes en rugissant et une heure plus tard, les fumées de la ville de Des Moines apparurent devant nous au-dessus des champs de maïs verdoyants. Il lui fallait maintenant son petit déjeuner et il voulait prendre ses aises, si bien que je fis mon entrée à Des Moines, distante de 4000 environ, en stoppant deux gars qui revenaient de l'université de Iowa. Et ça me faisait drôle d'être assis dans leur confortable voiture, tout flambant neuf, et de les entendre parler d'examen dans un vrombissement douillet pendant qu'on entrait dans la ville. Maintenant, j'avais envie de dormir une journée entière. Et j'échouais dans une vieille gargote ténébreuse près de la rotonde des locomotives et passais toute une journée à dormir sur un grand lit blanc bien propre et bien dur avec des graffitis obscènes gravés sur le mur près de mon oreiller et de foutus rideaux jaunes tirés sur le spectacle fuligineux des rails. Je m'éveillais quand le soleil se mit à rougeoyer et ce fut la seule fois de ma vie qu'aussi nettement moment étrange entre tous, je ne sus plus qui j'étais. J'étais loin de chez moi, obsédé et épuisé par le voyage, dans une chambre d'hôtel minable que je n'avais jamais vue, écoutant le chuintement de la vapeur au dehors et les grincements des vieilles boiseries de l'hôtel et des pas au-dessus de ma tête et toutes sortes de bruits sinistres. Je regardais le haut plafond craquelé et réellement, je ne sus plus qui j'étais pendant près de 15 étranges secondes. Je n'étais pas épouvanté. J'étais simplement quelqu'un d'autre. Un étranger. Et ma vie entière était une vie magique, la vie d'un spectre. J'étais à mi-chemin de la traversée de l'Amérique sur la ligne de partage entre l'est de ma jeunesse et l'ouest de mon avenir. Et c'est peut-être pourquoi cela m'est arrivé justement en cet endroit et à cet instant, par cet étrange après-midi rougeoyant. Cette lecture du livre de Jack Kerouac est loin d'être terminée et je vous invite à poursuivre le voyage en vous procurant ce beau roman de Jack Kerouac sur la route. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles lectures en liberté. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez retrouver les podcasts de cette émission sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonne soirée à tous.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.